Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Tragea d'Afrav Gimel, 4 lignes avant les deux points. Ibaya Leo, Sandal Tame, Sandal Taor Mao, Chavit Ptucha, Chavit Stuma Mao, Avar Venasa Mao. Hier on a vu que celui qui portait d'une main quelque chose de Kodesh et de l'autre main, il porte dans l'autre main, il portait quelque chose qui était Tme Midras, c'est interdit de le faire. Maintenant, on a vu que c'était par rapport à une situation qui s'était passée, une réaction face à un cas, une personne qui avait porté des choses qui étaient impures d'une main et dans l'autre main, il portait quelque chose de kadosh et puis il avait mélangé les deux choses, et c'est ça qui avait créé un problème. Dans ce cas, on demande à la Gemara, est-ce qu'on interdirait aussi de porter quelque chose, une chaussure qui est pure, de peur qu'il vienne apporter une chaussure qui est impure? Et bah, y aller où? Sandal Tame, Sandal Tahor Mahou. Sandal Tame, c'est ce qui est établi. Sandal Tahor Mahou. Quelle serait la halakha dans un sandal qui est tahor? Chavit Ptucha, le problème c'était qu'il a mis sur une chavit qui était ouverte. Quelle serait la halakha dans une chavit stuma, dans un cas où c'est fermé, donc il n'y a pas ce problème-là? Dernière question. Avar Venasa Mahou. Si il a. On lui a dit que c'était interdit de le faire, mais il l'a fait. Est-ce que ce qu'il a porté dans la main qui était kodesh, est-ce que c'est considéré comme tamé ou pas? Rabbi Lamar, imavar venasa tamé, Rabbi Zahamar, avar venasa tahor. Sur la troisième question, la dernière question, on a une marloquette, mais sur les deux autres, on n'a pas de réponse. Dans la Gemara, kelim aligmarim betara. Dans la Mishnah, on l'a vu, que ce qui avait été finalisé, un ustensile qui avait été finalisé, on doit le tremper quand on veut l'utiliser pour des korbanotes, des gamrinan maou. Qui est-ce qui a terminé cet ustensile? Lema, si tu me dis, des gamrinan chaver. On parle d'un tem kracham, de quelqu'un qui fait en fait attention à toute la lachot de Tara, la malévoute villa. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tremper? Il a sûrement fait les choses comme il se doit. Et là, des gamrinan maaretz. Alors c'est quelqu'un qui ne connaît pas la lachot. Des gamrinan betara karelo. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on appelle ça, bien qu'ils ont été finalisés sous forme de Tara, on doit les tremper? Mais non, quand un maaretz s'en occupe, ça n'est pas finalisé avec Tara. Donc, demande la Gemara, comment est-ce qu'on peut appeler ça finalisé avec Tara? Amaraba Barchel, Amaraba Tla, Amarchmuel, Léolam, Degamrin ou Chaver. Mais mettons, on parle d'un cas où c'est un Chaver, c'est celui qui connaît la Lachot, qui a finalisé cet ustensile, et donc normalement, ça devrait être pur. Mais Mishum Tsinoura de Amaretz. Si jamais un Amaretz a craché, et par définition, puisqu'il ne fait pas attention à la Lachot de Touma, on définit que tout ce qui va sortir de son corps est tamé. Quand il l'a craché, alors c'est tombé sur l'ustensile. Demande la Gemara maintenant, et alors, Denafa Lemat, quand est-ce que c'est tombé? Il est même Kamed et Ligmere. Si c'est avant que j'ai finalisé l'ustensile, Alav Maneo, on a une halakha, tout ce qui est ustensile est perméable à l'impureté, mais une matière première n'est pas perméable à l'impureté. Et donc, moi je suis en train de faire une assiette, un verre, autre chose. Et puis lui, il a craché, ou il s'est mouché à côté, et puis ça, il y a quelque chose qui a touché cet ustensile. Mais pour l'instant, l'ustensile n'est pas perméable à la Touma, puisqu'il n'est pas encore ustensile. Et la bâtarde des gamrés. Alors forcément, ou après qu'il ait fini cet ustensile, il y avait un maaretz qui était au contact. Mizar Zahir Berou, on sait très bien que les chaverim, ceux qui connaissent la lachot, savent pertinemment que les maaretzim ne font pas attention à la touma, et donc ils éloignent tout ce qui leur appartient d'un maaretz. Donc, comment est-ce que tu peux dire qu'on t'oblige de faire une tvila, parce que peut-être il y a un maaretz qui a touché, enfin qui a craché dessus? Arrête, le chaver fait très attention à ce que personne ne lui abîme ses ustensiles de touma et de tahara. Et pour la Gemara, le Olam Mikamed et Gamre. Behemet, le Amaharet, il était à côté, il était dans l'endroit où j'étais en train de former cet ustensile. Maintenant, tant que je ne l'ai pas formé, Behemet, il n'y a pas de Touma que le Amaharet peut créer. Et donc, le Chaver n'a pas à faire attention à ce que le Amaharet ne touche à rien. Mais, Dilma, Devina, de Gamre, Adayen Lachai. Mais c'est vrai que toi, pour l'instant, tu as finalisé l'ustensile. Et quand tu l'as finalisé, alors au moment où ce n'était pas finalisé, il a craché dessus, bon, ben, c'est pas grave, puisque l'ustensile n'est pas ustensile, il ne peut pas rendre impur cet ustensile. Mais peut-être que quand, quelques minutes après ça, et tu vois que l'ustensile il est prêt, l'humidité que ce Amaharet a mis est encore humide, est encore vivante, on va dire, elle a encore la capacité de transporter la Touma. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait une Touma sur cet ustensile sans que tu le fasses, sans que tu fasses attention, c'est pas une inadvertance. Donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela qu'on doit tremper cet ustensile, de peur que tu n'aies pas fait attention, quand tu ne devais pas faire attention à ce qu'un maaretz ait mis et craché dessus ou autre, et après que tu aies fini l'ustensile, c'est devenu impur. Tvila in arev shemeshlo. Dit la Gemara, quand tu me dis qu'il faut le tremper, je comprends qu'il faut le tremper, mais on n'a pas le niveau supérieur de arev shemesh. Arev shemesh, depuis Maseret Brachot, première Mishnah de Maseret Brachot, on sait qu'il y a certaines tum'a qui ne peuvent être purifiées que arev shemesh, c'est-à-dire qu'après la tombée de la nuit. C'est-à-dire, tu vas aller au mikveh, mais tu vas attendre la tombée de la nuit. Donc, quand on te dit, tu sais, Un ustensile dans lequel tu vas manger un corban, lui, il a un statut de kodesh, lui, il doit être purifié. Tant qu'il est neuf, tu dois aller le tremper. Je dois le tremper, mais dès que je l'ai trempé, il est utilisable. Je ne dois pas attendre à tomber la nuit. Matnitin de lo Rabbi Eliezer. Notre Mishnah ne va pas d'après l'avis de Rabbi Eliezer. Pour l'instant, on va voir les échanges de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, et après on va comprendre comment est-ce que la Gemara comprend que notre Mishnah n'est pas compatible avec son avis. Shoferet shechatra lechatat. J'ai un ustensile, je veux le vider en fait, c'est pas un ustensile. C'est une matière première que je vais creuser pour en faire un ustensile pour pouvoir mettre la cendre de la vache rousse dedans. Donc c'est le niveau supérieur, le niveau 5, et faire lechatat. Shoferet, donc une matière première, shechatra lechatat, donc je l'ai préparé. J'en ai fait un ustensile pour un khatat. Rabbi Eliezer Omer, il te boit le miyad. Tu dois le tremper. Comment est-ce que tu le trempes? Comme dans notre Mishnah, apparemment. C'est-à-dire, on a un ustensile qui a été fait pour des korbanot, tu dois le tremper. Un ustensile pour paradouma, tu dois le tremper. Yeshua Omer, yetame vachakar ilbol. D'abord, tu le rends impur, tu le mets au contact d'une impureté, et après, tu le trempes. Vavilanba. Et on s'était posé une question au sujet de cette Mishnah. Dechatraman, qui est-ce qui a coupé cet ustensile? Qui est-ce qui l'a formé? Il est malchat rachaver, si c'est un tamit racham. La malit vila, pourquoi est-ce qu'il faut le tremper? Il a fait attention. Et là, dechat ramaret, forcément, c'est un maret qu'il a coupé. Béal et marabécho est à mes vides bol. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehoshua me dit va le rendre impur et après trempe-le? Le maret l'a fait, il a un statut d'impur. Hatam et vekae, il est impur. Vamar abishila rabba bar shila maramatna bar shmuel, l'olam dechat rachaver. Bémet, on parle d'un tamit racham qu'il a préparé. Et, mishum tsinora de amaret. Le problème, c'est la même chose comme chez nous, le crachat d'un maret. Même question que chez nous, de la fin des maths. Quand est-ce que ce crachat est tombé? Il est même comme des l'ikhatra. Si c'est avant qu'il a coupé, donc l'ustensile n'était pas un ustensile, donc il n'était pas perméable. Un lavmanaou. Tant qu'il n'est pas ustensile, il n'est pas perméable, donc il n'est pas impur. Vé la bâtard l'ikhatra. Alors forcément, c'est après qu'il a préparé l'assiette, elle est prête pour faire la khatat. Et là, quoi? Tu veux me dire qu'il y a un maret qui a pu arriver à côté et puis cracher dedans? Mizar Zahirba, le tamit racham fait très attention à ce qu'aucune touma ne touche son assiette, son ustensile. Mais pour la Gemara comme chez nous, l'olam mikamed elichatra. En vérité, on parle comme chez nous, c'est-à-dire qu'on a peur que le hamaret était au contact avec cette matière première avant qu'elle ait été formée. Dima bina elichatra d'ain lachai. Et peut-être qu'au moment où toi tu as formé l'assiette ou l'ustensile, peut-être qu'à ce moment-là, c'est encore humide et c'est pour ça que ça pourrait devenir impur. Donc en vérité, que ce soit kodesh ou que ce soit khatat, c'est-à-dire niveau 4, niveau 5 de la première Mishnah, quand un ustensile est utilisé pour des korbanot ou pour une paradouma, on doit les tremper, d'après Rabbi Eliezer, pour la même raison. On a peur qu'il y ait une touma que tu n'as pas fait attention, et tu ne devais pas faire attention, on a peur qu'il y ait une touma. Et donc, on te demande de tremper. Maintenant, la Gemara va développer sa question en disant, notre Mishnah ne va pas avec l'avis de Rabbi Eliezer. On a une halakha qui est très spéciale à paradouma. D'un côté, on va faire plein de chumrot pour paradouma, énormément de chumrot. Et d'un autre côté, on va faire une kula, très spéciale. Les tzlukim, ceux qui avaient une approche... hors du système de la Torah, pensez que pour paradouma, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a été impur, qui s'est purifié et qui attend la nuit pour qu'il soit pur, ce qu'on appelle tvoulium, c'est-à-dire, tant qu'il n'est pas complètement pur, on ne peut pas le prendre, alors que nous, les chachamim, pensez, oui, un tvoulium, on a le droit il a le droit d'utiliser, on a le droit il a un tvoulium, a le droit de faire toutes les étapes de paradouma. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait exprès de rendre impur quelqu'un qui était tahor, de lui dire d'aller te tremper, et quand il était dans un statut de tvoulium, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore à 100% pur, il était entre les deux, on lui donnait à faire paradouma. Donc ça, c'était le côté kula. Léotzi, miliban, shel tzedukim, pour exclure la vie des tzedukim. Mais d'un autre côté, pour équilibrer, on faisait tout plein de chumrot. Après qu'on ait dit cette introduction, on continue. Bishlam al Rabbi Yehoshua haynu deka ikar letzlukim detlan. Metamin ayu et akohen asurif et apara. Il est marqué, on rendait impur, le bedin rendait impur le kohen qui brûlait la vache rousse. Pourquoi? On le rendait impur, on lui dit va tremper, tet vulium. Leotim idibal shel tzlukim, pour aller à l'encontre de la vie des tzlukim. Shayu omrim, parce que eux disaient, mevarev shemesh aitaneset. Eux disaient que seule une personne qui était 100% pure, qui avait attendu la tombée de la nuit, pouvait le faire. Donc, on avait donc un système mis en place, on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va marquer les esprits, pour purifier quelqu'un, on va rendre une autre personne impure, qui va aller au mikvé, qui va être à moitié pure, et c'est là qu'il va pouvoir purifier. Et là, les Rabbi Eliezer, donc d'après Rabbi Yehoshua, tu prends un ustensile, c'est censé recevoir de la cendre de vache rousse, allez, tu le rends impur. Tu le trempes, c'est dans le même système, dans la même idée, on va le rendre impur et l'utiliser quand il n'est pas encore à 100% pur. Et là, d'après Rabbi Eliezer, il y a Marbi Shlama Be'alma Be'enane Rev Shemesh. D'après Rabbi Eliezer qui te dit qu'on ne fait pas, on ne marque pas les esprits, on ne va pas rendre cet ustensile impur. Alors, où est-ce qu'on va marquer les esprits? Il y a Marbi Shlama Be'alma Rev Shemesh. Si tu m'avais dit qu'en général, on doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Et dans cet ustensile, on n'attend pas la tombée de la nuit. Je comprends donc où est-ce qu'on a marqué les esprits. On a dit, vous voyez, vous les tzlokim, vous dites qu'il faut attendre la tombée de la nuit. Nous, on a une tvila, un statut de tvila, d'obligation de tremper, qui existe dans d'autres niveaux, comme le Kodesh, comme Korbanot. Donc on a ce même statut autant dans Paradouma, autant dans Korbanot. Et là-bas, on attend la tombée de la nuit. Et ici, on n'attend pas la tombée de la nuit. Ah là, on a bien exclu la vie des tzlokim. Pourquoi? Puisque normalement, ça a un statut de Tvulium, et ici, ça n'a pas ce statut, on a marqué la différence. Et là, il y a Marbe Alma, l'Obaïnan Erev Shemesh. Mais si tu penses qu'en général, il n'y a pas besoin de Erev Shemesh, c'est-à-dire que tu penses que on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit, même pour du collège, bon, tu m'as instauré une Tvila, et puis tu m'as dit que on peut aller immédiatement après la Tvila, on peut l'utiliser. Bon, ben oui, mais ce statut-là, c'est un statut général. Donc, tu n'as pas fait quelque chose qui sort de l'ordinaire pour aller exclure la vie d'Etzlukim. Amarav, Asawa, Ketmesheret. Si, si, on a fait une différence. Quand on a dit dans notre Mishnah que cet ustensile est impur pour le Kodesh est un niveau de Gdusha qui peut donc arriver à un niveau de Touma, niveau moins 4. Donc en vérité, cet ustensile, s'il n'a pas été trempé, on le considère moins 3. Et s'il touche du Kodesh, il va l'abîmer. Parce que le moins 3 ne peut créer un problème que dans du Kodesh. Donc on te dit, le Kodesh, il faut le tremper, est égal, on l'a transformé en niveau moins 3. Mais par rapport à Touma ou Khulin, il ne peut rien faire, puisque par rapport aux autres, ben, maître, on n'a pas besoin d'aller tremper cet ustensile. Eh bien, sache que quand c'est pour Paradouma, on l'a rendu au niveau 1. C'est-à-dire qu'il est rishon à Touma. Asaou aketme sheretz. C'est comme si il était au contact d'un sheretz. Un sheretz, un animal, un ramor, par exemple, qui est avatouma. Le contact au ramor, c'est rishon à Touma. Donc, lui, on l'a rendu rishon à Touma. En général, un rishon, il doit attendre la tombée de la nuit. Eh ben, lui, cet ustensile, qui est pour la paradouma, on l'a statué rishon. S'il touche de la Touma, il va l'abîmer. Évidemment, s'il touche du collège, il va l'abîmer. Mais, on n'aura pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Donc voilà, on a marqué les esprits. Et la méata, l'oteta méadam. Donc si tu penses que c'est niveau 1, donc ça ne pourra pas, cet ustensile ne pourra pas rendre un homme impur à la main, et pourtant il est marqué, Tanya, Chotra, celui qui l'a coupé, ou Matbila, ou alors celui qui va la tremper, Taountvila, eux-mêmes, donc ils prennent cet ustensile, on dit, il faut aller le mettre au mikvé, je le prends, je le trempe, monsieur, vous aussi vous devez aller au mikvé. Comment est-ce que ce niveau de Touma, d'après toi, est niveau 1, peut entamer un homme à Réum? À ce niveau ne peut pas entamer un homme. Et là, ça ouak et tu m'émettes, tu as raison. On l'a mis au niveau de Avatouma, qui peut rendre un homme et des ustensiles impurs, et c'est pour ça que cet homme a besoin de se tremper. Yahri, Tibayaza, Tlishivushvi. Mais s'il est au niveau de Tmet, on aurait eu besoin de rendre l'homme qu'il a touché, ou l'ustensile lui-même, on l'aurait rendu à un niveau encore plus supérieur, à savoir lui-même être aspergé par de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse, le troisième jour et le septième jour de sa purification. À la main, et pourtant, dans la braïta qu'on a vue précédemment, Chotra Omadbila, Tontvila, ceux qui l'ont coupé ou qui l'ont fait tremper cet ustensile, ils doivent se tremper. Il n'est pas marqué qu'on doit les asperger. Tvila Inazash, Lishushvilo. Donc si tu me dis que tu veux marquer les esprits par ce niveau de, par un statut différent, on a la même raison de tremper. Peut-être qu'un marais l'a touché quand on était en train de le former. Mais pour marquer les esprits, on va lui donner un niveau différent et on ne va pas aller jusqu'au bout de ce niveau, c'est-à-dire tu vas être tamé. Normalement, t'es censé être pur que ce soit. Ben, cet ustensile, on peut l'utiliser déjà aujourd'hui. Alors, demande la Gemara, je comprends pas quel statut tu lui as donné. Rishon, c'est pas bon. Tmemet, c'est pas bon. Et là, nous dit la Gemara, Asawa, Ketmemel, Bashvili. On lui a donné un statut très spécial. C'est pas qu'on lui a dit, bon, maintenant, tu es Tmemet. Tu es Tmemet le septième jour, c'est-à-dire après que tu aies passé les étapes d'être aspergé par de l'eau mélangée avec de la cendre, le troisième, le septième jour, voilà, c'est ton statut maintenant, et c'est ça qui marque les esprits. Et donc, c'est ce niveau-là peut rendre impur l'homme qui l'a touché, l'homme qui l'a coupé, l'homme qui l'a trempé, il va aller se tremper lui-même parce que c'est ce niveau-là. Donc, cet ustensile a besoin d'être trempé lui aussi, et on peut l'utiliser le jour même. Demande la Gemara, Ve'atania, Me'olam lo chitchu davar bepara. C'est vrai qu'on est parti dans des chumrot incroyables, mais on n'a pas exagéré. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Comment est-ce que tu peux me dire que quelque chose qui n'était au contact d'aucun mort, tu viens de sortir une assiette toute neuve, tu dis voilà, bah, c'est à cette mémette. Bah, c'est impossible de dire ça. Amar Abaye, non. La définition de on n'a pas été mechadesh, c'est shelo amru kordom tamam tamei yoshav. J'explique. Il y a des définitions dans la Touma. C'est-à-dire, on va donner l'exemple de Agmara, tmei moshav, tmei mishkav. Quand tu t'assois sur quelque chose ou quand tu t'allonges sur quelque chose, si tu es zav, alors tu vas rendre cette chose-là impure. Ça, c'est une sorte de Touma. Tu ne peux pas définir une sorte de Touma avec un certain niveau. Tu ne peux pas donner un statut de moshav alors que tu veux lui donner la gravité d'une autre Touma. Ça, tu ne peux pas. Mais de rendre quelque chose impur à un niveau sans changer le statut, ça tu peux. On va le lire dans les mots. Lo amru kordom metame moshav. Kordom, c'est une hache. Metame moshav, c'est une capacité d'être perméable à la Touma quand on s'est assis dessus. Sauf que pour moshav, pour avoir cette impureté de moshav, il faut que ça soit quelque chose qu'on s'assoit dessus. On a l'habitude de s'asseoir dessus. Si on ne s'assoit pas dessus, ça ne peut pas être tamé moshav. Donc, ce kordom, il ne peut pas devenir moshav. Quel est Tania, Ayoshev alakli, celui qui s'assoit, il est métamé. Yachol, kafa, c'est si jamais il a retourné un panier, viachav alea, tarkav, viachav alea, ou c'est un ustensile pour mesurer combien c'est, une demi CA, yachav alea. Donc c'est deux sortes de paniers pour mesurer une CA ou une demi CA, et il s'est assis dessus, il est tamé. Est-ce qu'on va dire que cet ustensile pourrait être tamé? Tamoulomar, vayoshev ala kli, yachar yeshev alav. Il faut s'asseoir sur un kli, yachar yeshev alav. On est censé s'asseoir dessus, c'est-à-dire un ustensile qui est utilisé pour s'asseoir. Cet ustensile, on dit, vas-y, enlève-toi là, c'est pas fait pour s'asseoir ça, c'est fait pour notre travail. Donc, de créer une touma qui est inadaptée, ça n'existe pas. Tu peux pas dire, voilà, un marteau, ça va être tamé moshav. Ça, on n'a pas dit dans Paradoma. C'est ça le chidouche qu'on n'a pas fait. Mais de dire, bon, ben, peut-être que c'était au contact d'un mort, et donc, ça serait perméable à la touma au contact d'un mort, oui. Ça va arriver jusqu'au septième jour, oui. Et ben, c'est ce statut que je veux donner, ça, je peux faire. Donc, on a conclu que Rabbi Eliezer aussi est adapté à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a dit qu'un ustensile de Kodesh, il doit être trempé, mais il est immédiatement utilisable. Dans Paradouma, on va dire la même chose, on va le tremper, il est immédiatement utilisable. Et où est-ce qu'on a marqué la différence? C'est qu'on lui a donné un statut de gravité beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave ce niveau-là de Tmémet le septième jour, et il va être utilisable immédiatement. C'est là comme ça qu'on aura exclu la vie des Tzedukim. Dans la Mishnah, on a vu que quand une personne impure a touché une partie de la nourriture qui est dans un ustensile, tout sera tamé, comme si c'était une entité. Ça, c'est cette roumra-là, c'est seulement au sujet de Kodesh, mais pas au sujet de Touma. Mais là, n'est-ce qu'on sait que même tout ce qui se trouve dans un ustensile est considéré comme une entité. Kafachat, une cuillère à Sarazav, avec la valeur de Sarazav, mais la Ktoret, pleine de Ktoret. Le mot achat, il est en plus. C'est kaf, c'est au singulier. Donc c'est achat. Katou, vasao, l'école machébaka, achat. Donc forcément, c'est venu nous apprendre que tout ce qui se trouve dans cette cuillère est considéré comme comme une entité. Et donc, tu touches la Ktoret, tout est tamé. Donc on voit de ce pasouk que tout ce qui se trouve dans un ustensile est considéré comme une entité. Mati, bref, kana, je comprends pas alors. Aussi, Rabbi Akiva, Soled, Vaktoret, Valevona, Vagechalim. Rabbi Akiva a rajouté. On verra sur quoi il a rajouté. Il a rajouté, il a dit que solette, la farine qu'on utilise pour les korbanot fait à base de farine, ktoret, les encens qu'on met pour le misbeach, levona, ça fait partie des produits qu'on met dans la ktoret, qu'on va mettre sur la mincha, veagechalim, et les braises qui sont sur le misbeach extérieur et qu'on met sur un ustensile pour faire la ktoret tous les jours, im naga tvulium, donc lui il a rajouté à ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que ces choses-là, im naga tvulium, si une personne est tvulium, il a touché une de ces choses-là, pas salet koulo, tout ce qui est dans cet ustensile, même si ça n'était pas au contact de cette personne, c'est considéré comme une entité, et donc tout est tamé. Derabanani. Pardon, demande la grave, vea, et cette halakha de Rabbi Akiva, elle est forcément derabanan. Avant de prouver que c'est derabanan, m'explique donc, toi tu me dis que tout ce qui est dans un ustensile, c'est une entité, minatora, kafakata sarazahav, voilà, je sais que Rabbi Akiva m'a dit que tout ce qui est dans un ustensile, c'est midarabanan. D'où est-ce que je sais que Rabbi Akiva parle midarabanan, mimai? Midektane, Recha, c'est marqué dans le début de cette Mishnah. Hei de Rabbi Shimon ben Betera allait faire khatat, la cendre d'une vache rousse. Shenaga tamé bemiktsato. Une personne impure a touché cette cendre. Shetimet kulo, il a rendu toute la cendre impure. Et cette halakha qui l'a rendu toute la cendre impure est forcément midérabanan. Pourquoi? Parce que minatora, la seule chose qu'on a, c'est kafachat aserazav, c'est seulement au sujet de l'actoret. L'actoret, c'est ce qui est lié au misbeach. Nous, on parle de paradoma qui n'est pas lié au misbeach. Donc, c'est forcément une halakha midérabanan. Donc, Tanakama vient et nous dit, Shimon ben Betera nous dit une halakha qui est midérabanan. Vient Rabbi Akiva et rajoute quelque chose qui est midérabanan. Donc, comment est-ce que tu peux, toi, affirmer, Rabbi Hanin, que cette halakha est minatora? Arrêt, tous les Tanaïm sont d'accord que c'est midérabanan. Vekatane aussi, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a rajouté sur ce que le premier avait dit. Le premier, c'était forcément midérabanan. Le second, Rabbi Akiva, forcément, vient rajouter quelque chose qui est midérabanan. Amarach la question du bar kapara. Tu as raison. Behemet, dans l'absolu, faire de ce qui est dans un ustensile une entité, c'est minatora. Mais ce que Rabbi Akiva a parlé, c'était l'onitzecha la shiari mincha. Quand on fait une mincha, on amène de la farine, le Kohen met sa main à l'intérieur, il va prendre la farine. Ça, c'est ce qu'on va sacrifier. Le reste, c'est ce qu'on appelle shiraim. Et c'est quelque chose qui va chez le Kohen. Donc, shiari mincha, ces restes-là, de les considérer comme une entité, ça, c'est midérabanan. Pourquoi? Midéoraita. Tzarich lekli, kli metzarfo, et no tzarich lekli, et kli metzarfo. Parce que ce qui est minatora, ce qui a besoin d'un kli, c'est-à-dire quand je veux faire la mincha, quand je veux prendre cette farine, il y a besoin que ça soit cette farine rassemblée dans un kli. Alors, puisque cette farine a besoin d'être dans un ustensile, c'est pour ça qu'on considère que le kli va, l'ustensile va les associer. Mais, et no tzarich lekli, et kli metzarfo. S'il n'a pas besoin de l'ustensile ne peut pas les définir comme une entité. Ça, c'est mis la Torah. Et mis des rabbanan, Rabbi Akiva va rajouter ça. La Torah banane. Rabbanan, ils ont rajouté, vegazo, dafel, gav, denot, sa'ech, la kli. Même si ce que se trouve dans cet ustensile n'est pas dépendant de cet ustensile, kli, met sa'info, le kli peut les transformer en une entité. Kinar, solet. Yagma, ok, tu m'as répondu pour ce que Rabbi Akiva a dit quand il parlait de la farine. Ktoret ou levona. Ktoret ou levona. Et Gechalim, bien sûr. Maïka, le memar. Arrête, hein. Ils ont besoin, ils ont tout le temps besoin d'être dans un kli. Abba Nachman, Abba Rabba Baravua, Kegon Shetzvaran, quand il a mis la ktoret ou la levona sur cartable, un cartable. Non, c'est pas un cartable. C'est un couvre-lit. C'est une peau qui est sur un lit. Et c'est quelque chose qui est assez rugueux, solide. C'est pas un ustensile qui a un bet kiboul, c'est-à-dire qu'il y a un récipient. Il y a pas de récipient. Deoraita yesh lo toch metzaref el lo toch el lo metzaref. Donc si j'ai un ustensile qui a un récipient, alors il est metzaref, il peut créer et définir que tout ce qui se trouve à l'intérieur est une entité. Mais sinon, ça n'est pas défini comme l'entité. Vaturabanan vetiknu defalgav den lo toch metzaref. Donc Rabbi Akiva, ce qu'il a rajouté midérabanan, et tu as raison de me dire qu'il a rajouté des choses midérabanan. Dans certaines choses, dans la farine, c'est par rapport à ce que l'ustensile n'est pas dépendant de la farine, et dans les gechalim, la ktoret, etc. On parle dans un cas où il les a posés sur un ustensile qui n'a pas de récipient. Là, cet ustensile n'a pas la capacité de transformer tout ce qui est à l'intérieur comme une entité. Donc, la Gemara, ce qu'on a affirmé d'après Rabbi Hanin, qu'il existe une source minatora, ou pliga de Rabbi Hanin, à de Rabbi Chiya Barabba. Cet avis de Rabbi Hanin, il est en contradiction avec Rabbi Chiya Barabba, d'Amar Rabbi Chiya Barabba, Amar Rabbi Yochanan, mais luto, chez Rabbi Akiva, nishnet mishna zu. Notre mishna qui nous dit que tout ce qui est dans un ustensile est défini comme une entité, lui, il a dit que cette Mishnah, ça allait d'après Rabbi Akiva. Et puisque Rabbi Akiva nous parlait des Rabbanan, donc on comprend que Rabbi Chiya Barabba, quand il a expliqué que notre Mishnah nous expliquait que c'était des Rabbanan, pourquoi est-ce qu'il n'a pas saisi l'option de dire qu'il y a des cas où c'est des Oraita, des cas où c'est des Rabbanan? Forcément, lui pense qu'il n'y a aucun cas où c'est Minatora. Et donc, lui pense qu'en général, associer tout ce qui se trouve dans un ustensile et le définir comme une entité pour le rendre entièrement tamé au contact d'une partie par un tamé, c'est seulement midérabanan. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vu, les questions de la Mishnah, quand tu portes une sandale qui est tamé midras, est-ce que ce qui est de l'autre côté kodesh est tamé machloket? Est-ce qu'on interdirait une sandale qui est tahor de peur que tu viennes prendre une sandale tamé? Est-ce qu'on interdirait une chavit fermée de peur que tu viennes prendre une qui est ouverte? On est resté sans réponse. On a vu qu'un ustensile qui a été finalisé, on doit le tremper. L'explication, c'est qu'on ait peur que le temps de sa préparation de cet ustensile, qui n'était pas encore perméable à la touma, peut-être qu'un maharet l'a touché, ou a craché dessus, pardon, et ce crachat est resté encore humide jusqu'à que tu finalises l'ustensile, et donc cet ustensile serait tamé. Pour cette même raison, d'après Rabbi Eliezer, on oblige un ustensile de Efer Apara d'être trempé aussi. Rabbi Yoshua lui pense que dans Efer Apara, on va pas le tremper, on va le rendre impur. Quelle est la différence, d'après Rabbi Eliezer, entre le Kodesh qu'on va tremper et celui de Efer Apara qu'on va tremper? Le statut qu'on va donner à Efer Apara, un statut beaucoup plus grave, Et donc, on va, grâce à ça, exclure l'avis des Tzedoukim, puisque eux pensaient qu'une personne qui est Tvoulium peut tremper, ne peut pas utiliser Paradouma. Nous, on va le faire, on va faire un Tvoulium. Ce qui est dans un ustensile est associé en une entité, Marloket, parce que c'est Minatora ou Midérabanan. Même ceux qui pensent que c'est Minatora, c'est seulement dans un ustensile avec récipient, et seulement quand ce qui se trouve dans l'ustensile a besoin d'ustensile. Mais, par exemple, les restes de la farine, qui n'ont plus besoin de cet ustensile, eux ne devraient pas être considérés comme une entité. Minatora, Midérabanan, ils sont, oui, considérés comme une entité. Le DAF est très clair, Baruch HaShem. N'oubliez pas de faire Hazara, et à demain, Bezrat HaShem.